Bonsoir. Pressé par son parti politique, l'ANC, le président sud-africain a démissionné hier mercredi. Jacob Zuma quitte le pouvoir un an avant la fin de son mandat suite aux soupçons de corruption qui ont entaché sa gouvernance. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Stéphanie Walters, chef de programme recherche paix et sécurité à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud. Madame Walters, bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Alkitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes stratège et analyste économique. Timothée Tchaoumbo-Choucha, bonsoir.
Bonsoir, cher ami Alain Rouge.
Merci. Vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président sud-africain a annoncé mercredi sa démission avec effet immédiat lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision. Jacob Zuma se pliait ainsi aux ordres de son parti, le Congrès national africain ANC. « Je dois accepter que mon parti et mes compatriotes veulent me renvoyer », a-t-il ajouté, assurant avoir toujours été un membre discipliné de l'ANC. On écoute le président Jacob Zuma dans ses propos diffusés et traduits par nos confrères de France 24.
« No life. Aucune vie ne doit être perdue en mon nom. De même, l'ANC ne doit pas se diviser à cause de mon nom. J'ai donc pris la décision de démissionner en tant que président de la République avec effet immédiat.
Voilà, Stéphanie Walters, vous êtes chef de programme recherche paix et sécurité à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud. Peut-on affirmer que ce jeudi matin, les Sud-Africains se sont réveillés soulagés après le dénouement du feuilleton Zuma?
Absolument, ça fait deux semaines qu'on attend la démission de Jacob Zuma, qu'on a des démarches dans tous les sens, un peu de l'ANC par rapport à son départ. Évidemment, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, disons, où on a donné la donne depuis la décision au mois de décembre de donner de passer à Cyril Ramaphosa comme président de l'ANC. Et depuis quelques semaines, les démarches pour essayer de trouver une solution par rapport à Jacob Zuma, qui normalement devrait avoir son mandat jusqu'en 2019. Il y a des tractations de jour en jour. On a eu des annonces, une annonce après l'autre. Demain, on aura une annonce. Demain, on aura une annonce. Mais hier, on ne savait pas. Est-ce que après la décision de l'ANC de retirer la confiance à Jacob Zuma, est-ce que lui, il allait accepter de démissionner ou est-ce qu'on allait être poussé à une décision au niveau du Parlement? Donc, on était tous assis sur nos sièges. Et finalement, à 22h30, hier, heure de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma a donné sa démission.
Alors, pourquoi finalement l'ANC a accepté de lâcher Jacob Zuma, sur qui pèse plus de 700 chefs d'accusation?
Ben, écoutez, il faut dire que ça fait peut-être deux ans qu'on a de la pression par rapport à la personne de Jacob Zuma. On a compris depuis un certain temps à quel point il agissait beaucoup plus pour son intérêt, l'intérêt de son élite et l'intérêt de ceux qui le soutenaient financièrement et politiquement. Et c'était devenu un vrai embarras pour l'ANC. Il y avait eu énormément de pression de la société civile, de l'opposition, des médias. Il y a eu scandale après scandale. Il y a eu décision judiciaire après décision judiciaire contre lui. Il y a eu des effets énormément nuisants du point de vue économique par rapport à sa gouvernance. Il y avait plus de crédibilité au niveau de son gouvernement, pas lui seul, mais aussi son gouvernement. Et l'ANC, je crois, a pris la décision de dire, on essaie de virer, on essaie de nous rattraper, on va rediriger le pays d'une façon dont on peut être fier. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut interpréter la décision de finalement pousser Jacob Zuma à son départ. On a aussi jugé que si Jacob Zuma reste à la tête du pays pour encore 18 mois, jusqu'à la fin de son mandat, quelque part en 2019, l'effet nuisant sur l'économie sud-africaine, avec les ratings, avec tout ce qui va avec la monnaie nationale, allait être trop grave. Donc finalement, on a décidé de faire le changement plus tôt que tard.
Est-ce qu'on peut dire, Stéphanie, que Zuma est parti malgré lui parce qu'il dit ne pas comprendre pourquoi on lui demandait de partir?
Absolument. C'est quelqu'un qui n'a jamais, jusqu'aujourd'hui, pu accepter quelconque jugement judiciaire, quelconque reproche sur les faits par rapport à sa rôle central dans la corruption, par rapport à sa rôle central dans la corruption, non seulement autour de lui, mais autour de sa façon de s'ingérer dans les affaires des services de sécurité de l'Afrique du Sud, dans sa façon de ternir l'intégrité des institutions. Jacob Zuma n'a jamais pris la responsabilité de tout ça. Alors même hier, on s'est posé la question. À la mi-journée, on a vu qu'il a donné un entretien à la SABC où il s'expliquait comme il voulait. Et il a encore une fois dit, même l'ANC n'a pas pu me dire ce que j'ai fait du mal. Pourtant, il y a des reproches, il y a des jugements judiciaires. C'est pas un secret. Tout le monde sait ce qu'on reproche à Jacob Zuma. Lui, il n'a pas accepté cette responsabilité, était là. Dans son discours hier soir à 22h30, encore une fois, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas dit il y a une raison quelconque pour laquelle je pars, il a juste accepté de partir. Alors c'est ça, je crois, le caractère de Jacob Zuma. Et c'est ça qui a beaucoup agacé les gens ici, c'est que c'est un pays qui est en voie de développement. On a énormément de pauvreté, énormément de questions de santé, d'éducation, de manque d'emploi, de croissance économique qui sont vraiment aiguës et sur lesquelles devrait se diriger un gouvernement sud-africain. Maintenant, toute la distraction d'une présidence qui se concentre sur elle-même, sur sa défense par rapport à tous ces scandales, plutôt de se concentrer sur ce que devrait faire l'Afrique du Sud, ce que devrait être la direction venue d'un gouvernement sud-africain. Donc, le caractère de Zuma, ça joue absolument un rôle central dans tout ce scandale et dans le dénouement qu'on a vu ces derniers jours.
Merci Stéphanie Walters. Je reviens à vous tout à l'heure. Alki Tengue, vous êtes stratège et analyste économique. Comment vous analysez l'affaire Zuma?
Il faut regarder l'affaire Zuma dans plusieurs angles. L'angle le plus simple par lequel il faut le regarder, c'est la paupérisation de la population sud-africaine, la pauvreté qui s'est aggravée. Et lorsque les gens s'aperçoivent que tout ça arrive de la faute d'une personne qui n'en a que pour lui-même et pour les siens, et c'est très désespérant. Mais en fait, il faut quand même regarder de manière stratégique quelque chose de très important. Un, la puissance du parti politique. Il ne s'agit pas de Zuma comme chef de parti politique, il s'agit de l'ANC, un bien commun, un bien qui appartient à tout le monde et qui est régi par des textes. Seriez-vous président du pays et président éventuel du parti politique, ça ne vous donne pas des droits étendus. Et comme vous vous rendez bien compte, l'ordre de quitter est venu du parti politique et on lui a dit, si vous ne partez pas du simple fait que vous démissionnez, nous allons actionner les axes parlementaires pour vous faire partir. Ça veut dire qu'en fait, les organes s'opposent à tout le monde, y compris à quelqu'un qui peut, à un moment donné ou à un autre, essayer de se refermer sur lui-même. Mais par contre, je suis quand même très touché par des mots sensés que Zuma a prononcé pour annoncer son départ. Il ne veut pas qu'une seule vie humaine supplémentaire ne soit perdue ou ne soit fauchée, et il ne voudrait pas être à la base d'un quelconque trouble dans le parti. Donc à un moment donné ou à un autre, ayant reconnu ses limites, il a décidé de rester ne serait-ce que humain et de laisser une dernière image correcte.
Voulait-il se racheter ?
c'était trop tard parce que le parti politique et la pression du Parlement, aussi bien de l'opposition que de son parti politique, ne lui laissait pas beaucoup de chance depuis très longtemps. On lui a demandé de partir, mais il n'a pas entendu. Et aujourd'hui, malheureusement, ça a exaspéré tout le monde. Il y a des gens qui doivent être heureux. Des gens comme Malema et d'autres députés doivent être heureux. Ils doivent fêter parce que pendant très longtemps, ils ont essayé d'être le contrepoids des arguments de l'opposition qui tentait à dire Zuma est corrompu et complètement inacceptablement incompétent. Et bien entendu, ça, c'est quand ça vient de l'opposition, ça a une connotation dangereuse. Ils ont essayé en interne de faire un certain toilettage. Mais en fait, il faut regarder les choses de près. C'est que lorsque vous regardez l'Afrique du Sud, et vous vous rendez bien compte que c'est un pays qui a un déficit énergétique, dont la production minière et industrielle s'est affaissée, mais c'est un pays d'une certaine fragilité politique qui va directement sur la fragilité économique. Il était important d'avoir pour eux un management politique et public compétent qui donne des réponses à des questions de pauvreté, à des questions de chômage, à des questions sociales. On a vu les trois dernières années, les violences dans les quartiers populaires se multipliaient, qui étaient en fait l'indication de l'instabilité socio-économique qui aujourd'hui a raison de Zuma.
Vous relevez la paupérisation de la population sud-africaine à Al-Kitenge. Pourtant, en arrivant au pouvoir, Jacob Zuma représentait l'espoir des plus pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment a-t-il flanché?
Entre la beauté d'un candidat et la bonté, ça veut dire la capacité, la compétence à faire le travail, il y a quand même un écart important. C'était très regrettable déjà qu'à l'époque, Zuma remplace Mbeki. Lorsque vous regardez la qualité de Mbeki, même après son pouvoir, son remplaçant n'aurait jamais dû être Zuma. Mais en fait, ça c'est les forces de la politique, à un moment donné, l'influence, le charisme que vous avez. Et Zuma était un bon danseur, et donc il parlait beaucoup plus facilement.
Un populiste.
Tout à fait. Et malheureusement, entre le populisme et la gestion au quotidien des contraintes réelles, il y a un grand écart. Mais je voudrais ici attirer l'attention de nos auditeurs sur quelque chose d'extrêmement important. C'est que nous, la République démocratique du Congo, on est très liés à l'Afrique du Sud et à l'Afrique australe de manière générale. Et donc, une des choses que l'on doit pouvoir mettre sur la table de Cyril au moment où il arrive, c'est toute la question du développement de Inga 3. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud est stratégiquement liée à nous et l'Afrique australe avec, dans le développement de Inga 3. Inga 3 et le Grand Inga sont l'espoir, le poumon, l'épine de développement de la République démocratique du Congo. Et je peux affirmer sans le contredire que Zuma a été une des personnes qui a joué un rôle extrêmement négatif en essayant d'arbitrer sur les intérêts éventuels de l'Afrique du Sud et éventuellement ses intérêts directs personnels. Et cela, malheureusement, a continué à exacerber la situation et à la déformer. Et ça nous a rendu incapables de pouvoir mettre ce grand projet en exécution.
Près de 9 ans au pouvoir, plusieurs scandales à mettre sur son compte Al-Kitenge. Comment Jacob Zuma a-t-il pu se maintenir au pouvoir tout ce temps?
Vous savez, le pouvoir en Afrique du Sud est une question des partis et l'ANC est au pouvoir. C'était très embarrassant pour l'ANC d'avoir Zuma comme président, surtout dans les déploiements différentiels qu'il a pu avoir au fur et à mesure. Mais il n'était pas nécessairement plus facile pour eux de pouvoir s'en débarrasser sans pouvoir faire mal au parti. Donc ils ont essayé de le contenir, mais à la limite, chaque jour qui passait, il ajoutait des scandales et des éléments négatifs. Le dernier d'ailleurs a été cette affaire de la famille Gupta avec l'influence de lobbyisme négatif qu'il a pu avoir du simple fait que, de manière clair, il est évident aujourd'hui que c'est une question de sous.
Vous avez évoqué la puissance du parti politique en Afrique du Sud. Et donc, là-bas, on peut dire que les partis, les institutions sont plus forts que les individus.
Écoutez, regardez le Zimbabwe, regardez l'Angola, regardez
la Namibie,
regardez le Botswana, regardez l'Afrique du Sud. Les partis sont impersonnels. Ce n'est pas la même chose que chez nous. Chez nous, chaque parti a le nom de son propriétaire. Et donc, ça fait toute la grosse différence.
Qui en est l'autorité morale.
Appelez-le comme vous l'entendez. Et des fois, ça va même jusqu'en une contradiction par rapport au statut. Mais la situation est celle-là. Chez nous, les gens mettent la main à la poche. Dans ces pays-là, les partis sont financés par les adhérents. Et ça fait toute la différence. Et je crois simplement que aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la personnalisation du pouvoir est un défaut majeur. Et on se rend compte encore une fois que la puissance et la force d'un parti politique permet de recentrer l'intérêt général dans une opération comme celle que nous avons vécue avec Zuma.
Timothée Chaombo Choucha, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Quelle est votre analyse à vous? Vous avez suivi Stéphanie Walters et Al Kitenge.
Oui, cher Alain, les deux intervenants, les deux co-débatteurs ont brossé de façon savante la situation de ce que nous pouvons qualifier désormais de l'épisode Zuma. Il faut dire d'abord dans la forme que le caractère irréversible de la décision de son parti, l'ANC, a influé directement sur sa décision, bien qu'il a tenté de se rattraper vers la fin avec des mots sages pour sa démission. Il ne fallait pas seulement céder. Il me semble qu'il lui a fallu aussi le déclarer, et c'est ce qui a été fait. Vous savez, il est empêtré depuis environ 10 ans, hein, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Bon, il est pris en otage carrément par les frères Gouta, qui ont totalement élaboré quasiment une capture d'État en Afrique du Sud, ayant coûté comme ça des millions de dollars à l'État sud-africain. Mais dans les fonds, qu'est-ce qu'il faut retenir? Al Kitenge l'a déjà brossé un petit peu, mais je voudrais aller dans l'autre angle. C'est que l'Afrique du Sud et l'ANC ont su construire des institutions qui sont au-dessus de ses dirigeants. Et Al Kitenge a parlé des institutions impersonnelles. Ça veut dire qu'actuellement, il donne c'est plusieurs notions qui passent à travers les sciences politiques qui disent que les institutions en elles-mêmes n'accomplissent pas des miracles. Ce sont des hommes qui sont appelés à les animer, à les conduire. C'est pour ça qu'on a toujours établi la responsabilité ou les responsabilités des dirigeants. Un deuxième élément qu'il faut attirer l'attention, c'est l'attitude de Zuma. Jacob Zuma et sa gestion ont permis l'image d'abord de l'ANC. Vous savez que l'ANC est un patrimoine africain dans la lutte contre l'apartheid, dans la lutte, je veux dire, de la négritude. Hein, nous pouvons l'élargir dans ce sens-là. Et pour nous tous, nous nous retrouvons, pour tout Africain, l'ANC est un modèle de gestion, est un modèle de lutte qu'après Jacob, je veux dire après la mort de Nelson Mandela, qu'un dirigeant de l'ANC puisse saper l'image de l'ANC. C'est quelque chose qui a permis pratiquement l'image et touché à la mémoire même de la lutte de Nelson Mandela. Un troisième élément que je voudrais ajouter, c'est que cette troisième leçon, c'est que l'épisode de Jacob Zuma nous donne une autre explication de l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et moi, je comprends cette alinéa d'une autre façon en regardant ce qui vient de se passer en Afrique du Sud. C'est que le président de la République ne peut pas rester indéfiniment en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, s'il ne marche pas conformément aux lois du pays et aux textes de son parti. Et l'article 64 de la Constitution dira, je suis en train de faire ici un petit peu de la lecture présumée d'une lecture de la Constitution sud-africaine, la comparer un petit peu à la nôtre, dans une forme d'approche comparée, que chaque Sud-Africain ou chaque Congolais a le droit de démettre ses dirigeants qui sont ses serviteurs en réalité. Il peut, les Congolais, les Sud-Africains, tout citoyen peut démettre de ses fonctions ses mandataires qui s'écartent de la gestion des clauses de loi de la République et des partis.
Timothée Chaombo.
La plus grande question que je me pose.
Timothée Chaombo.
La plus grande question que je me pose. Est-ce que notre... Oui.
Voilà, vous avez également fait allusion, comme Al Kitenge, aux institutions fortes et impersonnelles en Afrique du Sud. Peut-on parler d'un bras de fer entre la culture anglo-saxonne et la culture francophone?
Il n'y a pas, il n'y a pas bras de fer parce que la charpente juridique administrative de toutes les institutions de l'Afrique, je veux dire, sont basées sur le droit romano-germanique. Et que donc, de ce fait, il s'agit ici de l'appréhension, de la compréhension d'un certain nombre de gens par rapport. Sûrement que la zone francophone est en train de subir un petit peu l'influence de métropole, mais il s'agit aussi des hommes qui sont au sein de ces institutions. L'Afrique, le Sénégal a décollé, c'est de la zone francophone. Il s'agit nous-mêmes, il s'agit des inclinations du cœur de l'animateur qui arrive au sein des institutions. Je me pose la question, Je me pose la question, est-ce que à Kinshasa, avec tous les dossiers que nous avons eu, BG Fibank, avec tous les dossiers Panama Papers, est-ce que notre PPRD, parce que l'ANC est un petit peu comparé au PPRD, est-ce que au sein du PPRD, nous pouvons avoir un secrétaire général avec les organes du parti qui peuvent convoquer les chefs de l'État, qui peuvent convoquer la famille du président de la République, qui peuvent convoquer le président de l'Assemblée nationale? On vous parle des dépassements budgétaires de plus de 400% à la présidence de la République, de plus de 250% au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat. Est-ce que vous avez vu un seul ministre répondre? Est-ce que vous avez vu un seul parti convoquer ses mandataires? Est-ce que vous avez vu dans la stratégie financière des dossiers qui sont cités par-ci par-là, à Colhydro et ailleurs, que l'on puisse convoquer?
Merci.
Voilà un peu les leçons que nous laisse l'épisode Zuma et que nous devons nous questionner quant au fonctionnement de nos partis politiques qui sont aujourd'hui dans les détournements. Et finalement, vous avez les
doctorants
qui s'octroient une corruption, j'appelle ça un génocide scientifique.
Merci Timothée.
Et au sud de tout le monde.
Merci Timothée Tchaoumbo. Je reviens à vous. Stéphanie Walters, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Omer Katwisha, c'est Balonde, je vous appelle depuis Kassai Central à Kananga. Je trouve que cette démission est une mascarade politique de la part de sa famille politique même. Parce que si cette démission était vraiment un apanage de l'opposition, de la pression faite par l'opposition sud-africaine, nous devrions croire que c'est ça la démocratie et l'idéal même de la démocratie africaine que nous devrions tous suivre. Mais tant que ce sont des arrangements entre la famille politique de Zuma et ses amis, alors nous trouvons qu'il n'y a pas là la vraie démocratie. En Afrique, on ne fait que des mascarades. Ce n'est pas aujourd'hui. Jacob Zuma a été accusé plusieurs fois d'avoir détourné le denier public. Et lui-même avait accepté publiquement qu'il avait détourné ça. Il devrait restituer les fonds qu'il avait détournés. Mais sa famille politique n'avait pas fait de bruit jusque-là. Mais pourquoi attendait-il jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la fin de son mandat afin qu'il vienne maintenant revendiquer?
Stéphanie Walters, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Je crois que c'est très important de regarder justement la famille politique autour de Zuma. On a beaucoup regardé la question de la personne lui-même, du poste de président. Mais il faut dire que c'est pas la première fois qu'il y a une motion de défiance contre le président. Et l'ANC jusque-là n'a jamais instruit ses membres parlementaires de voter contre le président. Si Jacob Zuma n'avait pas à lui-même pris l'initiative de démissionner hier soir, on aurait vu cette vote avoir lieu aujourd'hui où l'ANC aurait dit on voudrait que Jacob Zuma démissionne. Mais on peut se poser la question, pourquoi ça a pris autant de temps? Et je crois que c'est la question de votre auditeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la question de la personne de Jacob Zuma, il y a la question de l'élite autour de lui, de l'entourage autour de lui, du leadership du parti de l'ANC qui pendant longtemps a été très bien au courant de la mauvaise gestion, des scandales après scandales autour de Zuma. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? Il faut dire que en 2016, on a eu des élections municipales où on a vu quand même que l'ANC a perdu le contrôle politique de beaucoup de grandes villes de l'Afrique du Sud. Et déjà là, on a senti que c'était parce que les gens ne se sentaient pas à l'aise par rapport à l'ANC. Et ils se sentaient pas à l'aise par rapport à la gestion que l'ANC montrait par rapport au pays. Donc déjà, les scandales visaient au parti. Je crois qu'à un moment donné, quand on se dirigeait vers la fin de l'année 2017, quand il y a eu le congrès du parti, il y a eu deux camps. Il y a eu le camp soi-disant qui soutenait Zuma, c'était dirigé par la candidate de Nkosazana Dlamini-Zuma, son ex-femme, et puis le camp de Ramaphosa. À vrai dire, on ne savait pas jusqu'au moment où cette élection a eu lieu, est-ce que ça allait donner un vrai changement. Le changement a été donné, le temps a été donné par le parti. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, même au niveau de leadership du parti, on appelle ça le top six. Donc on a un parti totalement divisé. On a des gens, trois personnes qui sont du côté Ramaphosa et trois personnes qui sont du côté de l'ancien camp de Zuma. Alors le parti aussi est énormément affaibli. Il doit apprendre par rapport à ce qu'il a perdu toutes ces années en soutenant ce président à tout prix, en ne pas levant la voix. Tandis qu'il y avait la société civile qui descendait dans la rue, il y avait la justice qui donnait raison à ceux qui reprochaient des choses à Jacob Zuma. Il y avait des journalistes qui disaient, on a découvert tel scandale. Il y avait énormément de preuves.
Stéphanie,
que la gouvernance sous Zuma, pas seulement du parti, mais de lui-même, était mise au pays. Donc le parti doit aussi prendre ses responsabilités. Ça va sans dire. Ça ne va pas changer d'un jour à l'autre parce qu'on a changé la personne qui dirige le pays, ni parce qu'on a changé la personne qui dirige, qui dirige le parti. Je crois que l'espoir en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est qu'on a repris la voie plutôt légale, la voie correcte, la voie transparente, la voie de la comptabilité.
Stéphanie, est-ce que c'est tout l'ANC qui a lâché Zuma ou il y a encore des partisans qui lui sont fidèles et qui le soutiennent et qui pourraient gêner l'action de Cyril Ramaphosa?
En fait, on peut jamais dire que c'est tout le parti qui soutient la démission de Jacob Zuma. Il y a toujours évidemment des gens qui le soutiennent. En quelle mesure est-ce qu'il peut gêner à l'action de Cyril Ramaphosa? C'est ça la grande question. Il a le devoir de composer son cabinet. Il y aura des élections en 2019. Il sera probablement élu, mais il faut dire que même si on a toujours cru que c'était garanti que l'ANC allait gagner les élections jusque, on ne sait pas jamais, c'est un parti affaibli, mais on croit qu'en 2019, il va encore gagner. Mais c'est aussi question de la composition de l'équipe que Cyril Ramaphosa mettra en place. Il y a aussi la question qu'on n'a pas encore touchée, c'est la question de la poursuite judiciaire contre Jacob Zuma. C'est un président, c'est un individu, un ancien président aujourd'hui, sur lequel pèse énormément de procédures judiciaires. Il y a des questions de ses impôts qu'il n'a pas payés. Il y a la question du procès judiciaire par rapport au fait qu'on lui a dit qu'il fallait repayer les frais de la construction de sa maison. Il y a vraiment beaucoup de poursuites judiciaires qui n'ont pas encore pris leur fin.
Merci
et
Stéphanie.
Sur lesquelles l'ANC ne peut pas s'imposer. Elle ne peut pas amnistier le président.
Merci
donc,
Stéphanie.
Il n'y a pas que ça. Il y a des gens autour de lui.
Merci
aussi
Stéphanie.
Qui doivent répondre à la justice.
Merci Stéphanie. Alkitenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Ougen Mungwadjoué, depuis Kisangani, province de la Tchopo. C'est un exemple des pratiques de la démocratie à encourager. Cette démission permet à Jacob Zuma de sortir par la grande porte tout en évitant les bêtes de sang dans son pays. Zuma devra désormais être face à la justice afin de répondre aux accusations dont il est l'objet pour prouver son innocence ou sa culpabilité. Cela est une leçon pour les chefs d'État africains qui, la plupart, n'écoutent ni ne laissent le peuple s'exprimer de la corruption dont ils sont victimes en instaurant un régime dictatorial ou totalitaire. Ça s'explique aussi par le fait que les pays anglophones sont toujours assujettis à leur parti politique par opposé des pays francophones.
Alkitenge, vous avez dit que l'Afrique du Sud était très liée à la RDC. Est-ce que ça pourrait avoir certaines ramifications ici au pays?
Il y a quelque chose qu'il faudrait bien comprendre. Le citoyen tout à l'heure disait que Zuma est sorti par la grande porte. La réponse est non. Il est sorti par la fenêtre parce que il a attendu trop longtemps et il a bien peut-être dit qu'il a évité un bain de sang et c'était à son honneur.
Même pas la petite porte.
Non, pas du tout. Il est sorti par la fenêtre. Par contre, une chose qui reste vraie, c'est qu'il va se retrouver dans des démêlés judiciaires qui sont liés à ces démêlés financières et économiques. Et bien entendu, le président Zuma, par personne interposée de manière directe, a des choses assez malpropres qui sont connues dans plusieurs cercles économiques et financiers. Et bien entendu, malheureusement, une partie se retrouvera en République démocratique du Congo. Et donc, j'ai envie de dire que Zuma se retrouvera dans des démêlés en Afrique du Sud, mais aussi à l'international. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si le parti de Jacob Zuma, l'ANC, voudrait réellement gérer ce pays correctement, il va falloir qu'ils administrent à leur parti une cure de réforme et réinventer le parti et lui redonner une image de marque qui ne peut être basée que sur l'intégrité et sur une nouvelle perception des questions de corruption et de conflit d'intérêts.
Il y a Tefo Lesiba de l'Université de Pretoria qui dit que Jacob Zuma, c'est un bon tacticien qui s'est construit un réseau solide autour de lui et s'est assuré que de nombreuses personnes lui étaient redevables. Alkitenge, Kingi, est-ce que l'ombre de Zuma ne va-t-elle pas continuer à planer sur le pouvoir en Afrique du Sud?
Il est évident que la mafia a la peau dure, bien entendu, lorsque on est dans des situations où on est en situation de conflit d'intérêts permanent et on détourne les deniers publics et que on applique le délit d'initié, on utilise des personnes généralement interposées, on leur donne les positions qu'il faut pour qu'ils se salissent sans que vous ne vous salissiez. Et bien entendu, ça, Zuma l'a utilisé fondamentalement. Et malheureusement, maintenant qu'il est, il n'est plus au pouvoir et qu'il a quitté le pouvoir, il va se retrouver, lui, face à son histoire, face à ce qu'il ne voulait pas regarder tout ce temps. Et toutes les personnes qui lui étaient encore fidèles simplement parce qu'il était en poste vont devoir le quitter une à une. Et il va se retrouver dans une situation de fragilité sociale et personnelle tout à fait évidente.
L'ANC doit se remettre en question. Dites-vous, sommes-nous en train de nous éloigner des années Mandela?
Je pense que déjà toutes les 9 années que nous avons connues avec Zuma ont écarté le gros prestige que Madiba avait donné à son parti et à son pays. Et il va falloir reconstruire. Une des choses qui a été touchée, c'est la bourse sud-africaine, comme vous le savez très bien. C'est la monnaie sud-africaine qui a été complètement dégringolée. C'est tous les équilibres de la confiance que les agences de notation donnent à la République sud-africaine. Et donc, il y a du travail de fond à faire. Et je pense que Cyril est la bonne personne et qu'il a l'étoffe nécessaire pour se rendre compte qu'il a des défis internes et des défis internationaux.
C'est un millionnaire, Cyril Ramaphosa.
Il est milliardaire.
Voilà. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait aller loin des scandales de corruption, contrairement à Zuma?
C'est un choix et je crois qu'il n'a absolument pas de raison de se laisser aller dans la mauvaise direction. Et il sait très bien que le monde entier le regarde. Et il y a aussi une composante raciale. Il va falloir qu'il démontre de manière claire qu'on peut être noir en Afrique du Sud et démontrer qu'on est redevable et qu'on est un bon gouvernant et qu'on peut garder le prestige que garde aujourd'hui un homme comme Mbeki, que le monde entier respecte. Vous connaissez tous les rapports sur les flux financiers illégaux qui partent d'Afrique. Et c'est donc, je crois, une personne qui a un jeu qui ne concerne pas sa propre personne. C'est un jeu d'un homme d'État. C'est un jeu entre lui, son avenir et l'avenir de son pays. Et donc, il va jouer en grand.
Timothée Chaumbo-Choucha, nous allons prendre pour vous cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Sylvain Luma, depuis Kinshasa. L'analyse à faire de cette situation, c'est que Zuma est conscient de sa responsabilité, mais aussi par respect à son peuple et au principe même de la démocratie, il ne pouvait pas continuer à s'entêter. Il ne pouvait pas non plus résister à la pression de son parti qu'il avait porté à ses postes. C'est ça la démocratie. Lorsque celui qui vous avait accordé le mandat vous désavoue, il faut lui obéir et céder le mandat. Aussi, je respecte même les positions de l'ANC qui n'obéit pas au principe de la solidarité négative comme on pouvait l'observer chez nous ici, où les gens sont là en train de s'accrocher au mépris des principes qui régissent la démocratie ou les organisations politiques, allant même à créer les divorces avec leurs propres organisations originaires qui les ont portées à ces postes pour cupidité d'argent.
Timothée Chaumbo.
Oui, je ne partage pas totalement l'intervention, peut-être l'opinion du compatriote de Kinshasa. D'abord, je partage en partie, dans la mesure où la démocratie, les institutions, il a respecté les institutions, d'abord de son parti, la décision de son parti. Mais l'autre volet auquel je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a été obligé de respecter, de se plier à la décision de l'ANC pour plusieurs raisons. D'abord, il s'est entêté parce qu'il sait pertinemment bien qu'après, Alkitin de l'a souligné, après ici, il doit se retrouver devant les cours des tribunaux par rapport aux faits qui sont avérés. Un deuxième élément, c'est que l'ANC a analysé, et j'ai dit tantôt que c'était une forme d'expression la plus haute de la souveraineté d'un peuple qui peut retirer à ses mandataires les mandats. Même en plein exercice, Zuma, c'est en 2019 qu'il doit quitter les institutions. Et donc, ici, Jacob Zuma a analysé, et l'ANC a analysé, ensemble avec son cabinet, pour voir quel héritage il laisserait. Si on continue, parce qu'il faut rappeler ici qu'en 2019, il y aura des élections en Afrique du Sud. Que si on continue de cette façon, l'ANC allait perdre les élections. C'est aussi ça. C'est pour cette raison, l'ANC a finalement obligé à Jacob Zuma, ipso facto, de quitter. non seulement qu'il cède à son fauteuil de président de la République, mais aussi qu'il le déclare parce qu'il actionnerait le mécanisme qui ira du parti à l'Assemblée nationale dans leur forme de déchéance, et ils sont majoritaires. Et il faut savoir qu'avec Julien Malema et d'autres opposants qui sont à l'Assemblée, Jacob Zuma n'allait pas survivre. Donc, il ne s'agit pas de la, sûrement qu'il y a la démocratie qui s'exerce chez eux, mais il ne s'agit pas de la bonne volonté de Jacob Zuma jusqu'à présent, jusqu'au moment, à quelques heures de sa démission, il a tergiversé, il a accordé certaines interviews, il ne comprenait pas ce qui s'est passé, alors qu'il est pertinemment conscient qu'il est trempé dans plusieurs dossiers de détournement, de corruption. Vous avez appris à Kinshasa, on vous parlait du parc agroalimentaire ou agro-pastoral de Bukangalozo, plus de 80 millions de dollars. Mais où sont passés cette arnaque entre deux États, entre deux chefs d'État? Voilà les dossiers auxquels nous devons nous baser pour dire, Al-Kitengla savamment épinglé, pour dire que Zuma va se retrouver dans le dossier international. Dans le dossier international par rapport aux milliers, aux ramifications des milliers d'affaires auxquelles il est allié par rapport à sa mauvaise gestion. Et je vais terminer par un petit élément. Il faut dire aussi que l'image de Mandela, de Marc de Mandela, a été ternie. Et ici, il faudrait pour le nouveau chef d'État, qu'il soit noir, je sais que Cyril est noir, c'est un homme d'affaires, mais l'influence de milliers des affaires au niveau national et international, le nouveau président, le prochain président de la République Syrie, Maposa, doit fournir des efforts et relever les défis, d'une part, d'être un dirigeant interrépondant à la gestion de la chose publique, mais au même moment aussi, de recoudre l'ANC qui est en fragmentation en quelque sorte, parce qu'il y a des groupes qui sont un petit peu pour Zuma et d'autres sont pour Maposa et les autres sont des maîtres. Donc, il faudrait à la fois le travail au sein du parti, mais aussi au niveau de la gestion de la chose publique.
Timothée Tshaombo, Stephanie Walters, a dit que pour les Sud-Africains, l'espoir, c'était le retour à la voie légale. Brièvement, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Quel point de vue? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Stephanie Walters a dit que l'espoir pour les Sud-Africains, c'était le retour à la voie légale.
Le retour à la voie légale sur laquelle se laissait Zuma continuer à exercer ses mandats jusqu'en 2019, la voie légale, c'est quoi? C'est laisser cette situation s'empêtrer, ça sera la liquidation de l'ANC, ça sera la liquidation de la lutte de Mandela. Et l'ANC l'a compris, il a fallu reprendre la reine du pouvoir. Et c'est tout le sens même de ceux qu'on appelle excellence, honorable, excellence président. Ce sont des serviteurs du peuple. Lorsqu'on vous confie la commande de la chose, que l'on constate, et on a entretenu plusieurs fois Jacob Zuma là-dessus, il s'est entêté. Lorsqu'on constate que notre mandataire au sein de l'institution s'écarte de la gestion orthodoxe de la chose,
merci Timothée. Stéphanie Walters, l'émission est en train d'étendre vers sa fin. Quand vous dites que l'espoir pour les Sud-Africains, c'est le retour à la voie légale, pouvez-vous expliciter votre pensée brièvement?
Oui, je crois que c'est une question de comptabilité et de transparence. Je crois que la corruption, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une question de ce qui se passe au niveau du sommet de l'État. On voit la corruption au niveau des municipalités, des localités, et ça nuit à la réalité quotidienne des gens. Le parti lui-même, l'ANC, fait partie de tout cela. Il y a un factionnalisme à un niveau beaucoup plus répandu qu'au niveau du sommet. C'est un parti qui lutte beaucoup plus pour les ressources du pouvoir que pour une idéologie quelconque et pour un développement national. Et je crois que la plupart des, en fait, beaucoup de Sud-Africains ont pu constater ça ces dernières années. Et ils espèrent que l'ANC, dans laquelle ils font toujours beaucoup de confiance, beaucoup plus que dans tous les autres partis d'opposition, il faut le dire, va remettre le pays sur cette voie-là, sur une voie d'un développement, pas sur une voie où les gens se battent pour avoir accès aux ressources.
Alors,
c'est
Stéphanie,
ça, c'est ça le parti de l'ANC depuis longtemps.
Stéphanie,
et c'est une nuisance à énormément de niveaux.
Alors, pour vous, en un mot, quelles leçons les pays, les autres pays africains pourraient-ils tirer de ce feuilleton Jacob Zuma?
Bah, c'est difficile à dire. Je crois que l'Afrique du Sud est quand même dans une étape différente de beaucoup de pays. Mais je crois que ici, on a compris que la voix du peuple est importante. Il y a eu des convergences de points de vue à travers des niveaux socio-économiques, des niveaux raciaux par rapport à ce que voulaient les gens pour pousser pour un développement. Ils ont fait le lien, les gens ici ont fait un lien entre la politique et leur avenir, qui, à mon avis, n'est pas possible de faire dans beaucoup d'autres pays comme la RDC aujourd'hui. Les gens n'ont pas cette capacité-là de faire valoir leur
Merci.
Voix.
Merci. Alki Tengue, y a-t-il des leçons que les pays africains peuvent tirer de cette affaire?
Bien sûr, la leçon principale, c'est que même lorsqu'on est l'ANC avec tout son ancrage social en Afrique du Sud, le défi électoral reste permanent. À n'importe quel moment, on peut perdre les élections, et le risque pour Zuma et pour l'ANC était évident. Et en fait, on a sacrifié on devait sacrifier Zuma et pas l'ANC. Mais moi, je voudrais dire quelque chose au-delà de tout ça, c'est que Cyril arrive, son plus grand défi, il est économique et il est social. Il est important que Cyril redonne confiance aux populations sud-africaines, d'en haut comme d'en bas. Les grands investisseurs, les opérateurs économiques doivent se retrouver dans sa politique. En même temps, il doit avoir le courage de pouvoir mettre en place un programme qui prenne en charge rapidement les grandes fractures sociales qu'il y a en Afrique du Sud. Une des choses qui est un véritable piège pour Cyril en ce moment, c'est la réforme agraire. Il l'a promise pendant sa campagne. Il va falloir que, intelligemment, avec un logiciel de haut niveau, il soit en mesure de la mettre en place, sans toutefois briser l'Afrique du Sud, comme ça a été le cas du Zimbabwe.
À part l'affaire, la réforme agraire, quels sont les autres préalables?
D'abord, redonner de la force à l'économie sud-africaine, parce que, comme vous le savez très bien, le social est soutenu par l'économie, qu'il est important qu'il rétablisse la confiance en l'Afrique du Sud, qu'il en remonte le prestige pour que les investissements directs étrangers reviennent à la hauteur du passé. Mais il va falloir que l'économie nationale reprenne, et que l'économie nationale reprenne, il va falloir qu'ils aient de l'énergie, et la République démocratique du Congo est au cœur de leur espoir.
Conclusion.
Il faut absolument que Cyril Ramaphosa ait un agenda géopolitique et géoéconomique important, et je crois simplement qu'il a intérêt à faire comme premier voyage international à la République démocratique du Congo, parce que nous avons ici une grande partie des solutions à ces problèmes.
Timothée Chaombo, pour Alki Tengue, les défis qui attendent Cyril Ramaphosa, c'est notamment économique et social. Pour vous, en guise de conclusion, quels sont les défis qui attendent le nouveau président?
Mais c'est aussi laisser que la justice fasse son travail et que Jacob Zuma, qui a été discipliné contraire à la démission par son parti, puisse y répondre de ses actes devant des cours de tribunaux, et lui et tous ceux qui seront impliqués dans cette situation, dans les différents dossiers dont il est auteur. Et en même temps aussi, la leçon qui s'étend jusqu'en Afrique centrale et l'Est et l'Ouest chez nous, pour dire que nous devons mettre des institutions fortes, pas des hommes forts. Les hommes forts sont ceux qui vont respecter les textes qui peuvent leur être opposés en tout moment, et qu'en République démocratique du Congo, nous devons voir plus clair, parce que nous avons des ramifications, des contrats Zuma qui sont signés avec Kinshasa, et que nous devons voir clair sur cet angle-là, mais aussi nos institutions doivent savoir, la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle, mais aussi d'autres institutions de l'État doivent savoir renvoyer devant les cours de tribunaux les mandataires qui sont impliqués dans les différents cas de corruption, même dans la personne du chef de l'État.
Merci. Stéphanie Walters, quelle est votre conclusion?
Moi, je crois que, en fait, pour revenir à la RDC, j'espère bien que le changement à la tête de l'Afrique du Sud va aussi changer la politique sud-africaine par rapport à la RDC. C'était beaucoup axé justement sur les intérêts économiques de Jacob Zuma, les intérêts personnels entre Zuma et Kabila. J'espère bien que la politique étrangère de Cyril Ramaphosa reposera beaucoup plus sur les questions de normes et de, d'intérêts universels comme les droits de l'homme, les questions humanitaires.
Merci madame. Merci madame. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.